Tamani, toute la voix du Mali.
Studio Tamani, voici les informations en français.
À l'écoute des programmes de Studio Tamani, bonsoir à tous et bienvenue à la une de l'actualité. Le rapport de la MINUSMA indique que 76 meurtres et 33 enlèvements ont été enregistrés au cours des trois derniers mois de 2022. Les groupes terroristes, les mouvements d'autodéfense, les groupes signataires et l'armée malienne sont pointés du doigt. Au même moment, les forces armées maliennes sont victimes d'attaques ciblées ces derniers temps. Ces attaques sont en train de créer la terreur au sein de la population, expliquent des analystes sécuritaires. Dans ce journal, on parle du repos dominical. Dans la plupart du temps, le dimanche, jour de repos, est aussi dédié au renforcement des liens familiaux et amicaux à travers des visites. Le développement de ce titre dans un instant avec Assitou Kanté, mise en onde Mamadou Ouattara. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue. Plus de 170 cas de violation des droits humains ont été enregistrés au cours du dernier trimestre de l'année 2022. Ces violences ont été commises par des groupes armés terroristes, les mouvements d'autodéfense, les groupes signataires et l'armée malienne, indique le rapport trimestriel de la MINUSMA. Selon le document, les régions du centre arrivent en première position. Omar Ouégalo.
76 meurtres, 63 blessés, 33 enlèvements ou disparitions forcées ont été enregistrés au cours du dernier trimestre de l'année 2022, a indiqué le dernier rapport de la MINUSMA. Le document révèle que 33 cas d'arrestation et de détention arbitraire en rapport avec des opérations militaires ont été également signalés. Les rapports accablent toutes les parties prenantes dans ce conflit. Sur ces 172 violations et atteintes enregistrées, 120 aurait été perpétrés par des groupes armés extrémistes. 26 par les forces armées nationales et les personnels de sécurité étrangers, 13 par des groupes armés non identifiés, 8 par des groupes signataires et 4 par des milices locales. Le document précise que la plupart de ces violences et atteintes ont été commises dans le centre et le nord du pays. La région de Banyagara arrive en tête avec 72 cas, suivie de Gao 43 cas, Ségou 23 cas et Menaka 16 cas. Par ailleurs, les rapports soulignent que les affrontements entre les groupes djihadistes, Jinim et EZS dans les régions de Gao et Menaka ont fait plusieurs victimes civiles. Ces combats ont également occasionné le déplacement des populations vers les zones sécurisées.
Certaines stratégies utilisées par l'armée malienne et ses partenaires dans la lutte contre le terrorisme ne sont pas efficaces. C'est du moins ce qu'affirme le directeur de Timbuktu Institute. Pour Bakary Samb, on ne peut appliquer la méthode de la guerre classique face à un ennemi invisible. Il préconise la gestion des urgences sécuritaires et la prévention de l'extrémisme violent par le renforcement de la résilience communautaire. Bakary Samb est joint par Ali Cissé.
Le terrorisme, dans sa forme actuelle, est le fruit d'une évolution. Nous ne sommes plus dans le contexte de groupes djihadistes venus de l'étranger attaquer le Mali. Autant l'approche purement militaire sécuritaire n'est pas efficace, autant les opérations de ratissage et de fixation sur certains espaces non plus n'est pas efficace. Certes, il y a des avancées. Et je crois que cette montée en puissance ne s'est pas traduite par une conquête du territoire, notamment dans le nord. Aussi bien l'armée malienne que ses partenaires sont en train d'utiliser la même stratégie. On ne peut pas appliquer la méthode de la guerre classique à une menace asymétrique. La lutte devrait être une lutte différente. D'autant plus que ce qu'on appelle aujourd'hui des djihadistes ne sont pas des envahisseurs étrangers, mais dans leur majorité, des enfants du Mali.
18h passées de 4 minutes, vous avez la possibilité de réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Parlant toujours de sécurité, pour les analystes sécuritaires, certes, l'armée malienne a apporté des coups durs aux groupes terroristes. Néanmoins, leur effet de nuisance reste d'actualité. Selon eux, les attaques dirigées ces derniers temps contre l'armée sont une façon de semer la terreur, la zizanie autour de la population. Ali Tungara, ancien chercheur, estime qu'il faut une collaboration concordante entre l'armée et la population pour gagner la victoire sur l'adversaire. Il est joint au téléphone par l'Alaïcha Wallet Infa.
Il est important qu'aujourd'hui, les groupes radicaux violents sont affaiblis physiquement en termes de possession d'armes de guerre. Mais au-delà, en ce qui est de la guerre asymétrique, malheureusement, les Maliens doivent se préparer pour le long temps. Donc, il faut renforcer en termes de réponse le renseignement humain. C'est seulement cette délivrance de ces services sociaux de base que les communautés qui vivent dans des endroits en proie d'attaques terroristes puissent non seulement se reconnaître dans l'État central, mais dans le même temps de les sentir comme utiles.
Autre sujet, le cortège de l'imam Mahmoud Diko a été dispersé le samedi dernier à coups de gaz lacrymogène par les forces de l'ordre. C'était à l'occasion de son retour de l'Arabie Saoudite suite à sa nomination au sein de la Ligue islamique mondiale. Dans un communiqué, la CEMAS condamne avec la dernière rigueur ce qu'elle appelle une agression et interpelle le ministère de la Justice à faire la lumière sur l'affaire afin de situer les responsabilités. Je vous l'annonçais dans le titre, à Bamako, le dimanche est aussi dédié au renforcement des liens familiaux et amicaux réunis autour du thé ou d'un plat en famille, parfois au grain. Dans la capitale malienne, cette tradition a été bien préservée dans beaucoup de familles. Elles estiment que cela leur permet de se connaître et de s'entraider. Des sociologues encouragent cette pratique ancienne qui, selon eux, a des vertus. Écoutons ce reportage signé Issa Oumar Togola.
Le dimanche est le jour de mariage à Bamako. C'est aussi le jour de retrouvailles entre les membres d'une même famille ou entre amis éparpillés dans la capitale, histoire de renforcer les liens de famille ou d'amitié.
Il y a plus de 20 ans, tous les premiers dimanches du mois, on se rencontre chez quelqu'un, un membre de la famille. On fait ça à tour de rôle pour qu'on reste en contact, qu'on partage les idées, qu'on s'entraide.
On fait tout pour consacrer les dimanches à la famille.
J'étais très content de voir mes oncles venir chez moi pour faire la réunion. C'était agréable.
Cette pratique ne date pas d'aujourd'hui, nous dira Drissa Sidibé. Selon les sociologues, le dimanche a toujours joué un grand rôle dans la cohésion sociale.
Quand nous prenons le dimanche, c'est une occasion pour les membres de la société de se réunir, ce qui facilite la cohésion sociale. Ça renforce le lien des parentés.
Et au moment où cette pratique a tendance à disparaître dans la société malienne, notre sociologue exhorte les familles à la réhabiliter pour que la société retrouve son unité d'antan.
Parlons de sport. La 7e édition du championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2022 se poursuit. Cet après-midi, les Aigles Logo du Mali effectuent leur entrée en lice contre l'Angola. Par ailleurs, des internationaux maliens ont retrouvé le chemin du filet ce week-end dans quelques championnats européens. Les détails avec Khalifa Goïta.
Le Mali, vice-champion d'Afrique, se doit de réussir ce match face à l'Angola dans ses débuts à la compétition. Pour cela, Ndiané et ses poulains n'ont pas droit à l'erreur. Sachant que le Mali est dans le groupe 2 en compagnie de deux autres pays, l'Angola et la Mauritanie. Seul le premier peut jouer les quarts de finale. En Europe, le capitaine des Aigles du Mali, Amari Traoré, a inscrit son premier but de la saison et donné la victoire à Rennes face au PSG ce dimanche en Ligue 1 française. El Bilal Touré a lui marqué son 4e but de la saison en Liga espagnole avec Almeria en égalisant le but de l'Atlético Madrid. L'attaquant malien de 20 ans, Issoufi Maïga, a désormais 2 buts en 2e division portugaise depuis la semaine dernière. En quart de finale d'une coupe anglaise la semaine dernière, Moussa Dienne a marqué le 2e but de son club Southampton face à Manchester City. Il a été également élu homme du match.
Le faux compte dénommé Gauthier Pasquet sur Twitter a affirmé la semaine dernière que le gouvernement malien a déclaré l'état d'urgence à cause de la menace sécuritaire autour de Bamako. C'est le sujet de la rubrique Vérifions avec Fatmata Kodjou.
Effectivement, dans son tweet du 12 janvier dernier, le faux compte au nom de Gauthier Pasquet, jamais identifié, publie ceci. Mali, le gouvernement déclare l'état d'urgence et le renforcement des emprises. Bamako, désormais encerclé par des djihadistes et la junte qui craint une attaque de masse le 14 janvier, n'a eu autre choix qu'à annuler les festivités de la souveraineté retrouvée. Mais il ne s'agit ni plus ni moins que d'un fake. Comme ça donne d'ailleurs depuis un certain temps, ce faux compte Twitter du nom de Gauthier Pasquet. Ce réclamant journaliste indépendant, lanceur d'alerte, analyste politique, spécialiste d'Afrique de l'Ouest Sahel, il utilise une photo du profil volé du journaliste Türkan Dandar. Il faut noter que cette publication est intervenue après que le gouvernement malien a annoncé dans un communiqué qu'elle sursit à la manifestation du 14 janvier pour des raisons sécuritaires.
Dans le Zoom sur d'aujourd'hui, Aïssata Diarra nous amène dans la circulation bamakoise. C'est pour nous parler des gestes qui ont tendance à remplacer les feux clignotants et autres, cela malgré l'existence de ces derniers.
Sur les ponts et autoroutes dans la capitale, les feux clignotants sont quasi inexistants. Vous savez pourquoi? Je vous explique. Dans la circulation à Bamako, les feux clignotants ne servent pas à grand chose pour certains usagers. Mais oui, il te faut ajouter d'autres astuces. Par exemple, lorsque tu veux virer, tu dois faire signe avec tes mains pour qu'on sache que tu veux virer. Pour des usagers, cette pratique s'explique par le fait que certains n'éteignent jamais leurs clignotants. Ainsi, difficile de savoir où ils vont. Sur le pont, cette scène peut tout de suite attirer notre attention. C'est lorsque les motocyclistes s'arrêtent soudainement et lèvent les mains en l'air. C'est là pour signaler à ceux qui sont par derrière qu'il y a un problème devant et qu'ils doivent s'arrêter. Ces gestes sont devenus des habitudes chez les usagers. À moto ou en voiture, beaucoup utilisent ces méthodes et les trouvent rassurantes pour éviter les accidents. Car pour eux, certains conduisent avec l'esprit ailleurs. Alors qu'on dit très souvent que ce sont les yeux qui regardent, mais c'est l'esprit qui voit.
Tout à fait, Aïssata Diarra, et merci pour cette chronique. Dans quelques minutes, ce sera le grand dialogue. Bonsoir, Sekou Gadjigo.
Bonsoir, c'est tout.
Alors, ce soir, vous allez aborder quel sujet dans le débat?
Alors, désormais, le Mali va célébrer le 14 janvier, journée nationale de la souveraineté retrouvée. C'est en tout cas ce qu'ont décidé les autorités de la transition. Certains Maliens ne sont pas d'accord. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui avec nos invités, Dr Alaï Boukoum de la Convention pour le Mali, également Mamadou Doucouré de Fusi Mali et Dr Fodié Tandjigoura, universitaire sociologue.
Merci et très bon débat. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Mais vous pouvez écouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans un instant, le magazine Malikoura. Plus de 200 partis politiques existent au Mali, confirment des politiciens du pays, mais de nombreux citoyens disent ne pas comprendre le but réel de ces organisations politiques. Pourquoi tous ces partis politiques? Quelles sont leurs missions? Quels sont leurs impacts? Votre magazine Malikoura traite ces questions. Il est réalisé par Khalifa Goïta.
La multiplication des partis politiques freine la bonne marche de la démocratie au Mali. C'est ce qu'estiment certains Maliens, notamment de Kaï et Ségou. Ces derniers demandent une réforme dans ce secteur.
Il y a des partis qui n'ont même pas de sièges, hein. Ce n'est pas bon. Des partis qui se trouvent dans des voitures, dans des concessions. Les nouvelles institutions doivent faire des référendums au niveau national pour fixer un quota, un pourcentage. Et le parti qui n'aura pas les 5% va disparaître obligatoirement.
Moi, je pense que nous sommes aujourd'hui dans une logique. Ça fait partie de la démocratie, le référendum auquel on va aller aujourd'hui. L'État n'est pas en mesure de sensibiliser. C'est seuls les partis politiques.
Ici à Kaï, on ne voit pas trop l'importance de l'augmentation des partis politiques.
Bipartisme, je pense que c'est pas bon pour un pays pauvre. L'attente de ces partis politiques-là, c'est sûrement la recherche des postes politiques. Hein.
Mais au niveau du Conseil national de transition, le président de la commission des lois affirme qu'un changement des textes par rapport à la création des partis politiques serait en déphasage avec les règles démocratiques. Souleymane D.
On ne peut même pas penser à la limitation des partis politiques. C'est remettre en cause les idéaux même de mars 1991. Nous avons conduit au multipartisme intégral. Dans la Constitution, il est même dit préciser que le multipartisme ne peut pas faire l'objet de révision dans notre constitution. On ne peut pas toucher à ça. Les partis politiques sont créés sur la base de l'idéologie politique. À partir du moment où ce sont des partis politiques qui concourent au suffrage universel, sur la base des moyens de droit qui sont pour ce que nous appelons un programme de société. C'est pour cette raison que j'ai dit que c'était un faux débat. Il faut leur laisser les Maliens créer autant de partis qu'ils veulent, mais il appartient à l'État, encore une fois, je l'ai dit, de mettre des conditions drastiques de création des partis politiques.
Le juriste Baila Nyang déplore le non-respect des missions assignées aux partis politiques par certains d'entre eux, même s'il les reconnaît qu'interdire la création des partis politiques n'est pas facile. M. Nyang propose toutefois la prise en compte de certaines mesures.
On ne peut pas avoir 200 idéologies pour développer un pays.
quand les partis ne peuvent pas gérer les crises internes, c'est ce qui arrive. La plupart des partis ne peuvent participer à l'élection. Ils n'ont pas les moyens. Moi, je crois que ce ne serait pas sage d'essayer juridiquement d'interdire ou de diminuer le nombre de partis politiques. Si ils s'enfreignent à la loi, on peut les interdire. Mais ce qu'on peut faire, c'est que lors des élections, interdire aux partis politiques de faire des coalitions, à condition que vous formez une coalition, vous y restez. La loi peut prendre. Autre que cela, il faut construire la citoyenneté. Et c'est ce que nous n'avons jamais fait.
Du côté des partis politiques, des responsables disent accorder une grande importance au multipartisme malgré certaines contraintes. C'est le cas de Sidi Touré, membre du parti parrainant.
La pluralité des partis politiques au Mali est une bonne chose. Elle est l'expression de la diversité des opinions. Cependant, il faut aussi noter que cette pluralité-là pose un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, pour pouvoir gérer le pays, nous avons quand même besoin d'une masse critique nécessaire. Or, l'émiettement des partis politiques pose un certain nombre de problèmes en matière de ressources humaines. Donc, il faut réitérer les rangs que les partis qui partagent la même idéologie se mettent ensemble.
En plus des partis politiques, des associations et regroupements de la société civile poussent aussi comme des champions, soulignent des observateurs. Ces derniers remettent aussi en cause l'utilité de la plupart de ces organisations.